donc temps de la retrouver. 13h, oui. Wendy Bouchard.
Bonne journée.
Ici, avec Wendy Bouchard. Ma France.
Bonjour à tous, il est 13h, merci d'être à l'écoute de Ma France. Nous prenons dans quelques secondes la direction de Strasbourg où les eurodéputés viennent de saisir la justice de l'Union Européenne sur le Mercosur, une saisine qui retardera à minima l'application du traité. C'est une première victoire pour les agriculteurs mobilisés. Nous sommes sur place avec eux et avec notre envoyé spécial pour ici. Un nouveau scandale pour le lait pour enfants contaminé. Après Nestlé, c'est Lactalis qui demande le rappel de 6 lots de lait infantile en France qui contiendraient une bactérie provoquant vomissements et diarrhées chez les bébés. Donald Trump est attendu à Davos au forum économique pour affronter les Européens qui, face aux menaces de surtaxes brandies, pourraient activer pour la première fois un règlement anti-coercition. C'est très tendu, vous le savez, au niveau international. La vigilance dans le Morbihan et le Finistère face aux inondations et aux crues. Les rues de Quimper sont en partie inondées. La préfecture demande de redoubler de prudence. Et puis on s'inscrit dans notre journée spéciale avec notre consultation. Ma commune, mon maire et moi, avec Odoxa, enquête consacré à l'éducation, le rôle des élus dans ce sujet, de l'offre éducative aux cantines scolaires, au combat contre la fermeture des classes. Nos invités sont mobilisés, notamment le maire d'Arras en charge de la commission éducation pour l'association des maires de France. Et nous commençons cette édition à Strasbourg où devant le Parlement européen, des milliers d'agriculteurs exultent en entendant la décision en direct après le vote des députés européens qui décident donc de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Bonjour Nicolas Joly.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Vous êtes à leur côté, c'est un scrutin qui s'annonçait très serré. Les opposants à la saisine mettaient en avant le contexte international, un moyen face aux menaces de Donald Trump de trouver de nouveaux partenaires commerciaux de l'Europe. La Commission regrette ce vote aujourd'hui, mais à côté de vous, évidemment, c'est une première victoire, Nicolas.
Oui, c'est une victoire syndicale, voilà ce qu'ont déclaré les organisations tout à l'heure à la tribune. On a appris cette décision en direct avec vraiment une véritable explosion de joie que vous entendez sans doute devant moi. Et à côté, des agriculteurs qui sont soulagés, on peut le dire, je pense. Je suis avec Romain Blanchard qui est agriculteur dans les Bouches-du-Rhône et secrétaire général adjoint de la FNSEA.
Romain Blanchard, bonjour à vous. Et merci de venir réagir en direct ici. La saisine est votée. La Cour de justice de l'Europe sera donc saisie par le Parlement européen. C'est une première victoire en effet pour vous et pour les agriculteurs européens mobilisés à vos côtés.
Oui, alors c'est une victoire pour les agriculteurs européens, mais je crois que c'est aussi une victoire pour les citoyens. Les citoyens français en premier lieu, on a eu un grand soutien de la population. C'est une vraie prise de conscience sur une reprise en main de notre alimentation. Donc comme vous l'avez dit, c'est une première étape, mais le combat continue. On va continuer avec détermination, comme on l'a fait depuis des années, qui nous ont amené à cette première étape.
Cet accord de libre-échange avec le Mercosur sera donc passé au tamis de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est ce que vous espériez, bien entendu. Vous diriez finalement que les parlementaires, que les politiques européens vous donnent une revanche sur la signature de cet accord.
C'est exactement ça. Alors, une revanche et puis surtout une légitimité de terrain. C'est le travail qui paye. On est allé voir nos députés, oui, patiemment, avec notre crédibilité, notre travail, notre obstination parfois, notre détermination toujours. On a su les convaincre et aujourd'hui, ils nous ont suivis parce que l'Europe, c'est l'Europe des peuples avant tout. Donc aujourd'hui, c'est la décision souveraine du peuple européen qui va s'appliquer et ça, c'est une vraie bonne chose.
Chaque voix a compté. On sait que le scrutin était très serré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Romain Blanchard, vous qui représentez les agriculteurs et la FNSEA aujourd'hui? Ça veut dire qu'en principe, l'accord du Mercosur ne peut donc pas s'appliquer, qu'il se retrouve repoussé de plusieurs mois.
Oui, aujourd'hui la Cour de justice de l'Union européenne va être saisie pour voir la légalité de l'adoption de la signature de cet accord. Donc ça, c'est déjà un premier délai qui est gagné. Comme ça, nous, ça va nous permettre de continuer à travailler. Et puis vous savez, malheureusement pour l'agriculture, il n'y a pas que le Mercosur. Nous, on a des problèmes de prédation, on a des problèmes d'accès à l'eau, on a des problèmes de distorsion de concurrence. Le Mercosur n'est qu'un des nombreux accords de libre-échange qui aujourd'hui grèvent la compétitivité de l'agriculture française. Donc dès demain, on va faire comme on fait toujours, on va se remettre au travail pour continuer à l'agriculture française de se développer.
Merci Romain Blanchard. À vos côtés, Nicolas Joly, donc agriculteur dans les Bouches-du-Rhône, secrétaire général de la FNSEA. Donc la journée se poursuit aussi dans la mobilisation après cette réaction, cette victoire, ce soulagement pour les agriculteurs, Nicolas.
Oui, c'est bien ça. Et bien maintenant, après deux jours de mobilisation, deux jours de combat, il va falloir ranger les tables. Certains ont déjà commencé et puis retourner dans les exploitations parce que vous le savez, c'est jamais facile pour des agriculteurs de laisser leur ferme. Certains nous l'ont dit. Les tracteurs qui sont venus et qui sont encore nombreux, au moins 450 ce matin, vont pouvoir progressivement regagner leur village d'Alsace, de Moselle et des départements voisins.
Nicolas Joly, merci beaucoup. En direct de Strasbourg, au Parlement européen, Parlement qui a saisi la justice de l'Union européenne. Le vote est tombé il y a quelques instants, vote que regrette la Commission européenne. Voilà pour notre dossier du jour et toutes les informations que vous retrouvez en direct sur ici.fr. L'autre grande réunion du jour sera aussi scrutée de près. C'est le Forum économique mondial de Davos en Suisse. Donald Trump y est arrivé sur le territoire. Il participe pour la première fois depuis 2020 et sa présence évidemment est très attendue dans le face-à-face qu'il oppose avec les dirigeants européens. Il n'a pas renié ces dernières heures son intention de s'emparer du Groenland pour des motifs militaires et ses menaces continuent d'inquiéter ses alliés de l'OTAN. Menaces économiques par ailleurs avec des droits de douane de 200% brandis par le président américain sur nos vins et champagne français. Quand l'actualité géopolitique est un risque majeur pour l'économie, eh bien il faut dire les choses, déclare le président du MEDEF, Patrick Martin, qui appelle les Européens à se réveiller.
Bon, à un moment donné, il faut que l'Europe dise stop à Donald Trump, et ce moment est venu.
Quitte à ce que ça implique des sacrifices pour les entreprises françaises ?
C'est un peu l'équilibre de la terreur. C'est très malsain. Ne nous sortons pas de la tête que l'Europe est le premier marché mondial et que les Américains ont besoin de l'Europe. Il faut qu'on arrête de considérer qu'on est dans un rapport du fort au faible, le fort les États-Unis, le faible l'Europe. Donc ce moment est venu, je le redis, ça peut avoir des effets de bord, ça peut être déstabilisant dans un premier temps. Enfin, si on courbe les chines une nouvelle fois, il y aura de nouvelles épreuves à l'initiative de Donald Trump. Donc le moment est venu de dire stop.
Le patron du MEDEF invité ce matin de Benjamin Duhamel sur France Inter, Emmanuel Macron, qui a quitté Davos, a lancé hier en anglais un message à Donald Trump. Nous préférons le respect plutôt que les brutes. Nous préférons l'état de droit à la brutalité. Décidément, les laits infantiles sont dans la tourmente et tout ce qui touche évidemment à la santé de nos enfants nous alerte à raison. Cette fois, c'est le géant laitier Lactalis qui annonce procéder à un rappel de silos de la marque Pico en raison de la possible présence d'une bactérie provoquant diarrhée et vomissement. L'origine bactérienne, Marie Dupin, proviendrait d'un oméga proposé par un fournisseur international.
Ben oui, ce que l'on retrouve dans tous ces pots de lait, Lactalis ou Nestlé, c'est la toxine céréulide. Une toxine qui peut provoquer des vomissements, des nausées, mais pas seulement. Des décès de nourrissons, de jeunes enfants ont déjà été documentés. Aujourd'hui, tous les fabricants de lait infantile sont potentiellement concernés, car cette toxine vient d'une huile très utilisée dans la composition de ces laits infantiles. Elle a été produite par un fournisseur chinois. Pour les parents dont les enfants ont présenté des symptômes, c'est le ministère de l'Agriculture qui est chargé de tester la présence de cette toxine dans les pots. Mais selon nos informations, les demandes affluent de toutes parts. Et surtout, il y a une difficulté majeure. Il n'existe pas aujourd'hui de centre national de référence capable de détecter cette toxine dans les selles, ce qui rend impossible à ce stade la confirmation d'un lien direct entre la consommation des produits et une maladie ou un décès. En l'occurrence, le décès d'un enfant pour lequel une enquête judiciaire est ouverte.
Marie Dupin, merci pour la cellule investigative. Et donc à côté de Lactalis, c'est Nestlé qui depuis le début du mois rappelle une quinzaine de références de ces laits pour bébés dans une soixantaine de pays. Les marques Gigoz et Nidal sont retirées des rayons des magasins après la contamination également par une toxine. Selon les informations d'Ici Azur, Léa, une habitante d'Isola, veut porter son affaire personnelle en justice alors que son petit bébé de 4 mois est tombé malade après avoir bu ce lait.
Nous, ça fait 2 semaines que le petit se nourrit plus, qu'il se vide de tous les côtés. Bien sûr que c'est dangereux, il a perdu du poids. Et du coup, ça fait tous les symptômes d'une grosse gastro. Alors, pour un bébé de 4 mois, le pire, c'est la déshydratation. Donc là, on est en plein dedans, quoi. Hein. Nous, là, jeudi, c'est notre jour de congé. Ben, on descend à l'hôpital, quoi. Et on va faire un méga check-up. C'est super énervant, quand même, sur les premiers âges. Puis on fait confiance à ces grands laboratoires. Hein. C'est Gigos, quand même. Donc bon, on pourrait leur faire confiance les yeux fermés. En fait, pas du tout. Pas du tout, au contraire, ils empoisonnent nos bébés, quoi. Et en fait, on peut pas leur faire confiance. Donc là, on a regardé des plus petites marques françaises, indépendantes, qui coûtent beaucoup plus cher. Mais bon, on s'en fiche à la limite si on n'empoisonne pas nos bébés, quoi.
Et heureusement, ce bébé va mieux après avoir été très malade. Donc vous l'avez entendu, pendant 2 semaines, l'avocate de la famille de Léa compose le dossier pour la plainte dans l'affaire du lait infantile Guigos, contaminé. Ma France s'inscrit aujourd'hui dans une journée spéciale à 2 mois des municipales avec une consultation menée avec l'Institut Odoxa. Ma commune, mon maire et moi, enquête consacrée à l'éducation. Êtes-vous satisfait des écoles de vos communes? Quelles sont vos idées pour améliorer l'offre éducative près de chez vous? Premier résultat qu'on vous donne, on en reparle avec nos invités dans quelques instants. Alors que 7 Français sur 10 sont satisfaits des établissements scolaires où ils habitent, mais derrière ce chiffre, beaucoup de disparités entre les territoires. Nous commencions notre édition à Strasbourg aux côtés des agriculteurs et je voudrais aussi donner la parole à des agriculteurs du Jura, à Écleux, ce village touché de plein fouet par la dermatose nodulaire et qui a mené il y a quelques semaines à l'abattage de tous les troupeaux de la commune. Ce fut un traumatisme, mais hier a été un tournant pour l'éleveur Florent Éplénier. 49 bêtes sont arrivées dans sa ferme, toutes vaccinées, issues de différents élevages du Jura. Il a repris la traite des vaches hier, Florent, et son travail, un renouveau qui fut pour lui un baume au cœur.
Ah oui, c'est un soulagement, oui, ça fait 3 mois que j'attends ce moment-là, donc oui, c'est un gros gros soulagement. Et puis c'est un jour de fête, quoi. Pendant la semaine qui a suivi l'abattage, oui, j'ai eu un peu du mal à rentrer dans le bâtiment. Après, moi, voilà, j'ai pas assisté à l'abattage. Et puis, je pense que j'ai bien fait de faire comme ça. Et puis, c'était dans un souci de me préserver aussi. Après, ça a fait tout bizarre. Tu rentres le soir, t'entends plus rien. Et puis, t'as pas le choix. Donc, après, quand il arrive des jours comme aujourd'hui, bah, c'est quand même. Ça fait 3 mois qu'on attend ça. Et c'est un gros, gros soulagement, quoi. Je remercie tous les éleveurs qui ont participé au repeuplement des 3 fermes sur Écleux. Et puis, c'est vraiment des animaux de qualité au niveau morphologie et puis sanitaire. J'ai remercié de ce geste, quoi. Oui.
Des bêtes qu'il a achetées auprès de 11 élevages, en effet, du Jura, environ 2 500 € par bête. Il attend le dédommagement, évidemment, pour ces animaux abattus. D'ici jeudi, tous les éleveurs de cette commune d'Écleux auront retrouvé leurs troupeaux. À la une politique, le patron des députés républicains, Laurent Wauquiez, confirme que son groupe ne votera pas la censure. Dans le contexte de danger qui est celui de la France, des menaces d'une guerre commerciale, il ne serait pas sérieux, dit Laurent Wauquiez, de faire tomber le gouvernement et de laisser la France sans budget. La SNCF Voyageurs se réjouit d'un nouveau record de fréquentation pour ses TGV Inouï, Ouigo et Eurostar, avec près de 168 millions de passagers en 2025, plus 3% de fréquentation par rapport à 2024. Et la compagnie compte à l'avenir sur la mise en service des premières rames de son nouveau TGV M et sur le développement des Ouigo, 30% de croissance attendue d'ici 2030. Et puis ces vigilances inondations dans le sud et dans le sud-ouest, c'est l'ouest du pays qui est rattrapé par les pluies. Les préfectures du Finistère et du Morbihan appellent en particulier à la vigilance avec les fleuves bretons de l'Audet et de l'Aïta placés en vigilance crue jusqu'à la fin de l'après-midi. Une partie de Quimper est inondée, les commerces protégés par des plaques de bois ou de métal et les autorités vous recommande la plus grande prudence, ne pas vous engager en voiture sur une route immergée. Évitez également de vous approcher des cours d'eau du littoral avant la levée de la vigilance. Et puis en football, c'est l'avant-dernière journée de Ligue des Champions. L'OM reçoit au Vélodrome le club légendaire de Liverpool. En cas de victoire, les Marseillais peuvent assurer leur qualification pour les 16e de finale. Ses supporters en tout cas ont envie d'y croire face à des Anglais 9e au classement.
Il y a toujours le nom. Le nom, c'est Liverpool qui arrive. Son histoire, c'est une légende, Liverpool. Liverpool, c'est quelque chose que tu as toujours entendu parler. Mais ça va le faire.
Contre les gros clubs, on n'a pas peur. Hein.
Il faut le jouer pour rien regretter.
Et on est chez nous. Ah, ça va être le feu. Hein. Le stade va être en feu. Liverpool, ils vont avoir la tête sous l'eau. Les joueurs de l'OM vont être à fond. Ça va être nous, là, le rouleau compresseur. Hein. C'est pas Liverpool. Hein.
À suivre sur Ici Provence dans un vélodrome bondé avec 3000 Anglais, coup d'envoi à 21h. Quant au PSG, il s'est incliné 2-1 face au Sporting à Lisbonne. Après ce revers, les Parisiens ne sont plus assurés de rester dans le top 8 de la Ligue des Champions, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. En attendant les matchs du jour, le PSG reste 5e au classement.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
Dans Ma France, et à deux mois désormais des municipales, alors que vos candidats battent la campagne, on restitue aujourd'hui les résultats de notre grande consultation Ma commune, mon maire et moi, enquête ici avec l'Institut Odoxa, consacrée cette fois aux attentes des Français sur l'éducation. C'est Erwan Lestrohan, directeur conseil au sein de l'Institut Odoxa, qui vient nous restituer dans les grandes lignes cette enquête. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Avec une question générique que vous avez posée pour cette consultation qui a mobilisé 16 000 Français. Quelle école demain pour nos enfants? Eh bien, dans leur ensemble, les citoyens sont-ils satisfaits de l'offre actuelle, Erwan Lestrohan?
Eh bien, ce qu'on observe, c'est une satisfaction majoritaire, mais on peut peut-être parler de satisfaction en trompe-l'œil, parce qu'en fait, 72% des Français jugent que le niveau des établissements scolaires dans leur commune est bon, mais il y a des fortes disparités territoriales. On passe de 81% en Bretagne, par exemple, à 63% en PACA. Et ce 72% des Français qui jugent que les établissements scolaires sont bons dans leur commune est peut-être tiré à la hausse par l'enseignement privé, parce qu'en réalité, quand on parle de l'enseignement public dans leur commune, uniquement 56% des Français en sont satisfaits, et on passe même de 70% de satisfaits en Bretagne à 47% en PACA, et on a aussi bien des urbains en Seine-Saint-Denis, dans les Bouches-du-Rhône, mais des ruraux aussi dans la Creuse, dans l'Ariège, dans la Somme, qui sont très critiques à l'égard de la qualité de l'enseignement public. Donc une satisfaction majoritaire des Français, mais beaucoup de tensions et de disparités territoriales sur ces sujets.
Bien sûr, on va interroger évidemment la place du maire, de l'élu, dans ce grand sujet de société, quelle école et quelle éducation. Avec nous, le maire d'Arras, Frédéric Le Turc. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour à vous.
Vous qui co-présidez la commission éducation de l'Association des maires de France, vous avez lu cette étude, cette consultation. 57% des Français sont satisfaits de leur maire en matière d'éducation, majoritairement dans l'Ouest, ça on peut y revenir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les prérogatives du maire, justement, pour ne pas faire d'amalgame ou de raccourci?
Alors, le maire n'a pas de compétence sur le volet en fait, des apprentissages sur le temps de l'école. Par contre, il peut proposer des services sur ce qu'on appelle le périscolaire, c'est-à-dire la garderie, les activités entre midi et deux, le repas, bien évidemment. Il peut proposer un petit déjeuner, il peut proposer aussi des activités après la classe, avec cette idée pour la plupart des élus, en fait, de faire que les équipes travaillent finalement autour d'un projet éducatif plutôt cohérent avec le projet éducatif de l'école, donc un travail partagé. Et avec cette idée d'ouvrir les enfants finalement sur la culture, le sport, la vie en société, le vivre ensemble.
Oui, une offre éducative très sociale. Il y a une conviction sur laquelle je voulais vous faire revenir, évidemment, des maires, sur le combat pour l'éducation. Nous sommes en Meurthe-et-Moselle, à Rocheville, 170 habitants dans la petite Suisse Lorraine. Ces deux dernières années, les parents d'élèves, les élus se sont mobilisés pour conserver la troisième classe de l'école menacée à chaque rentrée. Le maire Didier Pierrot, qui ne se représente pas au prochain municipal, veut que son successeur continue à mener ce combat pour défendre l'existence même dans son village de son école.
Il faut conserver l'idée d'une mobilisation et d'une cohésion, et puis toutes les autres actions qui pourront être menées. Et ça, ça va être la vie du village ou la vie des villages, quoi. La capacité à mobiliser, la capacité à être attractif, et c'est ce qu'on a défendu. Ça se décide sur le long terme, quoi. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Moi, je pense qu'il faut tout un village pour faire l'école. Voilà, c'est-à-dire que c'est parce que le village va bien que du coup l'école peut rester. Mais en même temps, l'inverse est vrai aussi. L'école, c'est ce qui fait qu'un village reste attractif. Donc il faut préserver cet équilibre. C'est pour ça qu'on défend l'histoire du long terme, et c'est pour ça qu'on défend l'histoire du maillage, quoi. Il faut arrêter de rentrer dans un calcul arithmétique, parce que sinon ça veut dire que demain, les territoires ruraux ne ressembleront plus du tout à ce qu'ils sont aujourd'hui.
Frédéric Le Turc, j'imagine que vous partagez les propos de ce confrère, de cet élu, comme maire et comme président, co-président de la commission éducation de l'association des maires de France, cette bataille pour la survie d'une commune qui passe aussi par l'école.
Oui, mais je ne pense pas qu'il faille en fait tourner le dos aux réalités de la démographie. Et cette démographie, elle réinterroge forcément la carte scolaire. Avec l'AMF, on a signé un protocole entre le ministère de l'Éducation nationale et nos instances nationales ce protocole, en fait, qui est décliné à l'échelle de tous les départements de France et qui a vocation à se décliner dans tous les territoires de France, vise à mieux faire travailler l'éducation nationale et les collectivités locales, avec cet objectif, certes, de maintenir l'école au plus près des familles, dans des distances raisonnables et responsables, mais en même temps de tenir compte, en fait, de la faiblesse de la fréquentation de certaines écoles parce que, en fait, moins d'habitants ou moins d'enfants, et donc une organisation différente qui doit encourager les maires à discuter entre eux pour, quelque part, que la présence scolaire soit la plus pertinente possible, qui soit soutenable pour l'éducation nationale, qui soit forcément convenable pour les familles et pour les collectivités locales, et qui soit acceptable pour les finances publiques. Parce que derrière une école, il y a forcément un objectif d'accompagnement des enfants à la réussite, mais il y a aussi, en fait, une organisation. Et cette organisation, elle a besoin d'être bien réfléchie en commun, parce que si on se retrouve avec peu de classes, un enseignant absent, où vont les enfants quand l'enseignant est absent ? Il faut vraiment qu'on ait, en fait, une collaboration qui soit beaucoup plus forte pour que le dialogue permet de trouver le meilleur, la meilleure architecture scolaire.
C'est très intéressant parce que cette réalité démographique, elle ressort finalement de notre grande consultation à Wallen-Lestrohan menée en partenariat avec votre institut Odoxa sur le rôle de l'élu, la satisfaction ou l'insatisfaction des Français face aux établissements scolaires, à la présence éducative sur leur territoire. L'insatisfaction, Erwan, elle est importante dans certains territoires ruraux. Je pense à Lyon, le Gers, le Lot, la Meuse, la Lot-et-Garonne. Pour cette raison-là, justement, c'est qu'on n'a pas forcément d'école chez soi.
Alors, parce qu'on n'a pas forcément d'école chez soi, mais aussi parce que, et c'est le propre des territoires ruraux et des petites villes, c'est parce qu'on pâtit de difficultés en termes de proximité des établissements, en termes d'accès aux médiathèques, aux centres de loisirs, aux lieux d'activité culturelle et sportive. C'est tout ce qui, au-delà de la seule question scolaire académique, va permettre l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, au-delà de l'école, dans la société, une fois qu'ils seront de jeunes adultes. Et c'est vrai que c'est ça qui va préoccuper particulièrement, c'est-à-dire que s'il y a déjà des tensions sur la qualité de l'éducation et qu'en plus, on n'est pas forcément satisfait et des équipements et des loisirs disponibles, l'inquiétude est maximisée.
Alors, il y a les résultats de cette étude que vous pouvez retrouver sur ici.fr et puis les idées, les intentions des Français, des citoyens, Erwan Lestrohan, les combats qu'ils estiment essentiels aussi à l'échelle municipale et donc à 2 mois des élections, tout en étant conscient des prérogatives du maire, que le maire d'Arras a rappelé il y a quelques instants, Erwan.
Oui, on leur a demandé quelles devaient être les mesures prioritaires pour leur maire. Il y en a une qui arrive en tête, très loin devant les autres, c'est lutter contre le harcèlement scolaire. 63% des Français l'ont mentionné, ça arrive nettement devant développer les loisirs culturels pour les jeunes, ce qui est une attente plus forte dans les zones rurales, et en troisième position, améliorer la qualité de l'enseignement, ce qui est une attente plus forte dans les métropoles. Et quand on regarde ce qui a été mis en place dans différentes communes, il y a 2 mesures qui sont très attendues et qui sont jugées prioritaires par une majorité de Français, c'est mettre en place des partenariats avec les entreprises locales pour développer l'emploi des jeunes, mettre en place des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière. Oui. Et dans tout ce qui participe à cette idée d'ouvrir plus fortement l'éducation sur le monde qui nous entoure, on a aussi, dans la consultation, 79% des Français qui disent qu'ils sont favorables au développement de la classe dehors. Donc c'est une école plus ouverte sur le monde de l'entreprise, sur la citoyenneté, sur la planète qui est attendue par les Français au-delà de la seule question scolaire.
Sur ces intentions, sur ces idées, sur ces demandes des Français, j'aimerais vous faire réagir, monsieur le maire d'Arras, vous qui êtes coprésident de la commission éducation à l'AMF aussi. Peut-être d'abord réagir sur le harcèlement, des sujets hélas dont on parle au quotidien, encore dernièrement en Seine-et-Marne avec la mort de cette jeune fille de 17 ans. Quel rôle, quel positionnement de l'élu local, du maire notamment, face à ce sujet de société ?
Ce sont des préoccupations qu'on partage, qui renvoient au travail qui doit être fait sur le temps scolaire par l'éducation nationale, mais aussi sur le temps périscolaire, avec la mobilisation des équipes des collectivités qui travaillent dans les écoles. Avec toujours, en fait, ce besoin de bien comprendre, en fait, que la commune, le maire, n'est pas en charge d'organiser un travail, en fait, sur ces sujets, sur le temps scolaire. Et c'est pas de sa responsabilité. Oui. Par contre, il peut prolonger, en fait, le travail qui peut être fait sur le temps de l'école par un travail intelligent avec les équipes de l'éducation nationale. pour que les formations, par exemple, des équipes enseignantes comme des équipes du périscolaire, soient en fait compétentes pour travailler sur le harcèlement scolaire, sur le climat scolaire, compétentes pour travailler sur cette relation en fait que l'on attend, et c'est juste, de l'école, de l'enfant, de la famille, avec le monde de l'entreprise, le monde du travail, en sachant que derrière chaque enfant, il y a des parents, derrière chaque parent, il y a des métiers, et que souvent, en fait, les enseignants comprennent l'intelligence de faire venir des parents pour témoigner sur leur métier dans les classes, et l'intelligence de profiter de ces mêmes parents ou d'autres pour aller visiter des entreprises et finalement les sensibiliser au monde du travail.
Ça, c'est très intéressant. Ça va dans le sens de la proposition de développement de partenariats aussi pour favoriser l'emploi des jeunes. Et puis, il y a un sujet qui est revenu beaucoup aussi, c'est l'éducation au goût. Les cantines scolaires qui jouent un rôle important dans le fait de manger local, dans le circuit court également. Vous allez réagir l'un et l'autre dans quelques instants. Après ce reportage au nord de Périgueux, à Champs-Sevinel, où la mairie a construit une toute nouvelle cantine, un bâtiment qui permet de préparer les légumes produits par la commune dans un potager municipale. Marie-Astrid Guégan s'appelait à tout le monde, à commencer par les enfants.
Avec son plateau dans les mains, Juliana, 6 ans, avance tout doucement pour ne rien renverser de son repas.
Soupe aux légumes, semoule avec des légumes, pommes et fromage. Oh, j'ai oublié ma pomme.
Elle retourne se servir, ses copines commencent leur soupe. Les pommes de terre dans ce potage, les enfants les ont récoltées eux-mêmes avec leurs parents à la rentrée. C'est la tradition, chaque année, raconte Violette.
Il y a Mégane qui creuse avec une charrette et nous on ramasse après les patates.
Mégane, c'est la maraîchère employée de la commune. Avec Jean-Philippe, ils cultivent les légumes à 600 mètres du bourg.
Alors en ce moment, c'est l'hiver, il n'y a pas grand-chose. Il y a des poireaux au fond là-bas. On en met 2000 tous les ans et ça se passe bien. Pour l'instant, la cantine n'a pas besoin d'en acheter, donc c'est que ça suffit.
Là, ça sent le chou.
Ah ben oui, il y en a, je sais pas, 50, 60. Et petits pois mangent tout, parce qu'on en a fait l'année dernière, ça a super bien fonctionné. Et puis les gosses, apparemment, à la cantine, ils ont aimé.
À la cantine, le chef, c'est Raphaël. Maintenant, dans la nouvelle cuisine, quand il a trop de légumes sur les bras, il a un appareil pour les surgeler.
Et ensuite, on stocke en chambre froide de congélation. Attention, il fait pas chaud. Là, on a du poivron qui date de l'été dernier.
L'été prochain, voilà. Il va tenter de congeler des tomates pour ensuite faire des sauces toute l'année pour les enfants.
Au cœur de notre grande consultation à 2 mois des municipales sur le rôle aussi des élus dans l'éducation, éducation au goût, le rôle des cantines scolaires d'importance, Frédéric Le Turc, qui est maire d'Arras.
Bah oui, c'est important. On a envie de se faire inviter d'ailleurs dans l'école.
Bah oui,
qui était bon partenariat. À témoigner parce que la petite fille... il mettait en appétit. Non, plus sérieusement, le temps de la cantine n'est pas obligatoire pour les collectivités, mais généralement, les maires en fait organisent une cantine scolaire avec finalement deux ou trois objectifs. Le premier, c'est d'offrir un repas équilibré aux enfants. Et malheureusement, dans certaines familles, c'est compliqué parfois d'offrir un repas équilibré. Deux, en fait, c'est de rapprocher le plus possible l'assiette du lieu de production. Mais c'est pas toujours évident parce que en fonction des tailles de collectivités, vous avez en fait des cantines qui peuvent être organisées ou des cuisines pour une centaine de d'assiettes, une centaine de repas, et puis vous en avez d'autres comme par exemple la ville d'Arras où il faut 2000, 3000 repas chaque jour. Donc c'est pas obligatoirement la même organisation. Toutes les collectivités n'ont pas obligatoirement fait le choix d'une restauration collective, d'un laboratoire en fait pour fabriquer les repas.
Oui.
Beaucoup passent aujourd'hui par des marchés publics, mais dans les marchés publics, on peut en fait, et c'est ce que l'on fait sur Arras, mettre des exigences de provenance de produits de proximité, de produits bio, de produits de saison, travailler avec des diététiciennes, on a une diététicienne à la ville d'Arras, et finalement offrir aussi une qualité de repas équilibrée au regard du nombre de repas qui sont aujourd'hui les nôtres. Le gouvernement a lancé ce qu'on a appelé les plans alimentaires territoriaux, une grande démarche en fait pour rapprocher justement la production agricole des lieux en fait de fabrication et des lieux en fait d'organisation des cantines sur le territoire. Par exemple, ici, on est engagé autour d'un plan alimentaire territorial qui mobilise les 46 communes de la communauté urbaine.
Merci beaucoup, Frédéric Le Turc, maire d'Arras et co-président de la commission éducation à l'AMF, face à cette enquête qui restitue aussi l'intention des Français, selon laquelle l'action des maires en matière d'éducation est capitale pour donner aussi des perspectives d'avenir dans sa commune. Merci à Erwan Lestrouan, directeur conseil pour Odoxa, de nous avoir fait une synthèse que vous pouvez retrouver également sur ici.fr.
À partir du 26 janvier, écoutez attentivement les chansons de votre radio ici
et gagnez 10 000 euros de vacances.
Voyage, voyage.
Chaque jour, repérez le disque rayé dans la programmation musicale d'ici et notez les paroles répétées de la chanson. Une parole répétée de la chanson. Une parole répétée de la chanson. Une parole répétée.
5 jours.
5 disques rayés.
Avec 5 extraits de chansons, reconstituez la phrase mystère. Envoyez-la sur ici.fr.
Et gagnez 10 000 euros de vacances avec Bellambra.
Apprendre partout en France et tout au long de l'année.
Vos valises sont prêtes?
Ici partenaire. En janvier, ici aime le magazine Cuisine Actuelle. Une cuisine gourmande, saine et accessible pour toujours plus de plaisir et de découvertes. Chaque mois, retrouvez des producteurs et des artisans locaux passionnés, des saveurs authentiques et des recettes originales. Ce mois-ci, direction les marchés des Hauts-de-France à la découverte des meilleurs produits régionaux et de saison. Un événement ici.
Tu veux apprendre un métier utile et concret ? Deviens apprenti dans l'artisanat. Avec CMA Formation, tu apprends un savoir-faire. Tu es payé pendant ta formation en apprentissage et tu décroches un diplôme du CAP au Bac plus 3. Rendez-vous le 24 janvier pour nos portes ouvertes dans près de 150 centres partout en France. Inscription sur artisanat.fr.
Ici Occitanie. Tous les jours à vos côtés.
Une comédie policière à Saint-Aurin, c'est la célébration des années 2000 à Bruguières. Ici Occitanie à vos côtés, c'est maintenant
Pascal Vesbrou.
Sherlock Holmes et Arsène Lupin s'affrontent enfin dans un duel de génie aussi légendaire qu'hilarant. C'est dimanche 8 février à Altigone-Saint-Aurin. Cette comédie policière familiale vous embarque dans un tourbillon de déguisements, de poursuites et de quiproquos avec pas moins de 6 comédiens. Sherlock Holmes et Arsène Lupin, une enquête déroutante et brillante qui promet de ravir autant les enfants que les parents. Rendez-vous dimanche 8 février à l'Altigone de Saint-Aurens et pensez à réserver. Est-ce que vous êtes prêt pour un voyage dans le temps totalement déjanté ? Eh bien, sortez vos plus belles tenues et préparez vos meilleurs pas de danse. La Feel Good Party débarque samedi au Bascala de Bruguières pour célébrer officiellement les années 2000. Le billet d'entrée est fixé à 12 euros. L'occasion idéale de revivre vos souvenirs les plus cultes en musique, c'est samedi au Bascala de Bruguières et ça commence à 21h. Ici Occitanie à vos côtés, on revient dans une heure.
Ici Occitanie.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Alors, je me souviens plus bien qui réclamait des paillettes dans sa vie, mais grâce à Ici Occitanie, vous voici exaucé. Erson and Fire, Boogie Wonderland. Ici Occitanie, c'est le jour des petits, excellent mercredi. Pour la musique, Laura Branigan garde son self-control et Claudio Capeo commence à faire son bilan de vie. Mais qu'est-ce qu'il me restera ? Nouveauté Ici Occitanie.
Quand j'aurai fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me restera ? Je sais pas vraiment qui je suis, ce que je veux, à quel point les gens me mentent. Si je choisis mes vêtements un peu mieux, je sais pas vraiment si je suis jeune ou trop vieux, à quel point mes proches me manquent. Si la tristesse rend les gens plus curieux. Quand j'aurai fait le tour, je sais pas vraiment si je suis sage ou trop fou, si j'ai toujours les mêmes rêves, à quel point il faut que j'abrège mes rendez-vous. Je sais plus vraiment si je sais rien ou je sais tout, si je parle toujours des mêmes thèmes, à quel point quand je dis je t'aime, je surjoue. Comme j'aurais fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me restera? Si ce monde éphémère s'effondre, qu'est-ce qu'il me restera? Quand j'aurais fait le tour.
Occitanie. Ici Occitanie, votre radio locale.
Chaque jour, Ici Occitanie et l'Écho d'Ici mettent à l'honneur les acteurs de l'économie locale.
Bonjour Vincent Nice.
Bonjour Bénédicte.
Et vous êtes le directeur commercial de Mon Voisin se régale. Vous êtes le seul de la bande qui n'est pas agriculteur, hein, c'est ça? Parlez-nous un peu de Cécile, Xavier et Bastien, je crois.
Cécile, Xavier et Bastien, en 2021, ont décidé de monter la société Mon Voisin me régale, avec pour objectif l'idée de pouvoir transformer et commercialiser en fait directement leur une partie de leur production de leur terre en fait.
Ils sont céréaliers.
Ils sont céréaliers au début du Lauragais sur Baziège, Montgiscard, et avec les prix en fait proposés par les coopératives, ils se sont dit ben finalement, si on enlève un intermédiaire, on pourra avoir une rémunération plus juste pour le travail que l'on fait.
Et ça vaut le coup de s'associer, c'est une histoire de volume, à trois on en fait plus?
Alors à trois on en fait plus, à trois on peut mieux se structurer finalement pour pouvoir répondre à un marché. Moi, comme je vous disais, je suis absolument pas agriculteur, moi je suis plus sur la partie on va dire commerciale ou la partie financière, et ça permet en fait que chacun ait un rôle précis en fait dans la société et de pouvoir derrière se déployer et commercialiser à plus grande échelle.
Surtout que l'outil industriel, il est présent chez nous en Occitanie. On a évidemment les champs, mais on a l'usine du côté de Castelnaudary, et même le meunier est près de Carcassonne, je crois, à Alzon.
Le meunier est à Alzon, il est en gros à 15 km de l'outil que l'on a pu racheter en 2022. Outil industriel qui nous permet à terme, qui nous permettra à terme, de faire 550 tonnes de pâte par an. Si on le ramène...
On ne se rend pas compte par rapport à d'autres gros industriels.
Alors, par rapport à d'autres gros industriel, on est bien en dessous, hein, mais c'est un début pour pouvoir derrière en fait continuer à grossir.
Et si je veux acheter vos pâtes, je les trouve où? Dans des épiceries fines? Est-ce que vous avez pu trouver un débouché dans les grandes surfaces? C'est pas facile, on le sait.
Alors voilà, oui, aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires est fait plutôt avec de la restauration hors domicile, avec des sociétés de restauration type Happy ou New Rest qui nous commercialisent dans des collèges, dans des lycées,
d'Olivier Sadre, l'ancien patron du TFC.
Voilà, ou dans des sociétés type Latécoère ou Airbus. Et le restant de notre chiffre d'affaires est fait en grande distribution dans quasiment toutes les enseignes, on va dire, du bassin toulousain et jusqu'à Montpellier. Aujourd'hui, on est distribué dans 70 magasins.
Un tout dernier mot, Vincent Nice, sur les pâtes à base de légumineuses. J'ai vu que c'était l'un de vos projets, peut-être que c'est même déjà dans les marmites.
Ça y est, c'est commercialisé depuis un peu plus de 6 mois. Mélange en fait de blé dur et de légumineuses pour permettre en fait à des torsades ou à des coquillettes de les enrichir.
Des pois chiches, des pois cassés, qu'est-ce que vous avez
mis? C'est du pois jaune. Du pois jaune pour avoir un goût relativement neutre sur la torsade et la coquillette. Et derrière, ça permet d'enrichir en protéines et en fibres que ce soit pour du sportif, que ce soit pour de la personne qui souhaite réduire un peu la protéine animale.
Mon voisin me régale les pâtes du Lauragais avec nous ce matin. Merci Vincent Nice, très bonne journée à vous.
Ici Occitanie.
I'm not afraid to die. écoutez,
c'est Ici Occitanie.
Dites-moi si je dors, si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Je partirai quand ça sera plus la fête. Quand les étoiles seront ternes pour rester éternelle. Je partirai au milieu de la tempête. Je trace comme une comète. Tu sais rien ne m'arrête. Je partirai. Sortez vos caméras. Dans la foule, je me jette dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi.
Puisse dire, c'est qu'elle ne tient pas en place. Ici Occitanie, c'était Oshi, qui sera d'ailleurs en concert au Zénith de Toulouse le mois prochain. Je partirai. Actu, musique et bonne humeur. L'actu, c'est pour 14h. Mais d'abord, Stevie Wonder va rendre hommage à Bob Marley dans ce titre mi-funk, mi-reggae, Master Blaster. A tout de suite.
Ici Occitanie.
Tous derrière le stade toulousain.
Retour du top 14 ce week-end après la qualif en Champions Cup. Choc au sommet au programme entre les deux premiers du championnat et Ernest Vallon. Toulouse reçoit Pau samedi soir, la section paloise aux avant-postes cette saison et qui aimerait bien venir jouer un mauvais tour aux Toulousains, un duel de haut de tableau qu'on va vivre ensemble dès 20h30 ce samedi sur votre radio ici Occitanie.
Le Crédit Mutuel donne le la à l'Hyper Weekend Festival de Radio France. Vendredi 23 janvier, soirée spéciale en direct sur votre radio ici. Dès 20h dans Décibel, découvrez les artistes du festival et à 21h30, un concert exclusif et exceptionnel de Charlotte Cardin en direct de la Maison de la Radio et de la Musique. Découvrez d'autres concerts de l'Hyper Weekend Festival sur l'appli Radio France. En partenariat avec le Crédit Mutuel, Mastercard, Malongo et le Centre National de la Musique. Ici Occitanie, toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Mmh.
Au cœur du Midi Toulousain, ici Occitanie.